Vous écoutez, on lit pour vous.
L'Amérique, la culture des armes et la peur. Un texte d'Éric Sauvé, paru le 30 novembre 2025 dans la presse. Ayant parcouru bien des États et des pays au fil des ans, Éric Sauvé a été amené à constater qu'il existe aux États-Unis une peur de l'autre qu'il n'a retrouvée nulle part ailleurs. Éric Sauvé est un ex-officier des Forces armées canadiennes et président d'Inovigo. J'ai travaillé 3 ans à l'Agence de renseignement de la défense américaine à Washington. Un jour, alors que je me tenais devant le quartier général, un employé m'a abordé en disant « Je ne peux pas croire que vous ne portiez pas une arme à feu. » Je lui ai répondu que, personnellement, je ne pouvais pas croire que lui en portait une. Lorsqu'il est parti, je me suis fait la réflexion que, malgré nos cultures très proches, nous vivions clairement dans 2 mondes différents. Un autre collègue, un colonel américain, un analyste exceptionnel, capable de disséquer une situation complexe comme peu de gens le peuvent, m'a déjà laissé sans voix lors d'une conversation autour d'un café. J'avais cru bon aborder la question de la culture des armes. Il m'a regardé d'un air sérieux et m'a dit que je commettais une grave erreur en ne portant pas d'armes. Puis, il a ajouté à brûle-pourpoint : « Si ta femme se fait violer dans une ruelle sombre, ce sera de ta faute si tu n'es pas capable de la défendre. » J'en suis presque tombée en bas de ma chaise. Comment un homme aussi brillant pouvait-il perdre toute rationalité dès que la discussion touchait aux conséquences tragiques et indéniables de l'omniprésence des armes à feu dans son pays? Une majorité d'Américains croit à un droit inaliénable de porter une arme. Cela ne fait aucun doute. Le 2e amendement de la Constitution, pour certains, on croirait presque le 2e des 10 commandements, consacrent ce droit et ils y tiennent farouchement. Mais ce que plusieurs n'avoueront pas, c'est qu'ils ont peur. Peur de l'autre. Nulle part ailleurs. J'ai visité 42 États américains et j'y ai rencontré un peuple chaleureux, accueillant et sincèrement curieux. Mais il existe aux États-Unis une peur diffuse de l'autre que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs, ni au Canada, ni dans le reste du monde. Et j'ai pourtant fait un tour du globe 1 an avec ma femme et nos 3 enfants. Beaucoup d'Américains entretiennent l'idée que la planète est un endroit dangereux. Depuis le 11 septembre 2001, du moins, force est de constater que plusieurs de nos voisins vivent avec la conviction qu'il existe, quelque part, des pays et des peuples qui leur veulent du mal, qui nourrissent en secret le projet de détruire leur mode de vie. Cette peur de l'autre s'exprime parfois de manière paradoxale. Lorsque nous avons emménagé dans notre nouveau quartier, juste au nord de Washington, plusieurs voisins sont venus se présenter apportant gâteaux et pâtisseries. C'était charmant et nous avons adoré ses attentions. Mais un ami américain, un peu cynique, il est vrai, m'a expliqué qu'il existait une autre dimension à ces visites. Oui, les voisins venaient souhaiter la bienvenue, mais aussi évaluer les nouveaux arrivants. Les gâteaux et les conversations légères sur le perron, au-delà de l'hospitalité, servirait aussi à vérifier qu'ils avaient affaire à une bonne personne. J'étais sceptique au départ, mais avec le temps, j'en suis venu à croire qu'ils n'avaient peut-être pas tort. Cela dit, j'ai adoré mes 3 années à Washington, mais ces années d'expatrié m'ont fait réaliser à quel point les Américains, malgré leur proximité culturelle avec nous, évolue dans une société où la violence fait partie du quotidien et où la peur, constamment amplifiée par la télévision et le discours public, joue un rôle prépondérant dans les politiques intérieures, autant qu'extérieures. L'Amérique s'est bien souvent construite dans la violence. Guerre d'indépendance, guerre de sécession, conquête de l'Ouest, conflits raciaux. Elle est portée par une culture fortement individualiste, animée par un profond rapport au religieux et ébranlée durablement par le traumatisme du 11 septembre. Reconnaître cela, ce n'est pas juger. C'est admettre que nos deux pays, malgré tout ce que nous partageons, ne conçoivent pas la sécurité de la même façon. La frontière la plus significative entre le Canada et les États-Unis n'est pas géographique, elle est psychologique. C'était « L'Amérique, la culture des armes et la peur », un texte d'Éric Sauvé, paru le 30 novembre 2025 dans la presse.
Des ninjas partout et même bientôt aux Jeux olympiques. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 16 octobre 2025 dans la presse. Plusieurs d'entre nous sont déjà tombés, à un moment ou un autre, sur l'émission américaine Ninja Warrior. Cette discipline, dont la popularité est en pleine ascension, est loin de se limiter à quelques compétitions télévisées. Saviez-vous qu'elle sera même intégrée aux Jeux olympiques? Le Québec ne fait pas exception au phénomène. Depuis quelques années, les gyms proposant des parcours à obstacles se sont multipliés. Les adeptes aussi. Le sport est en évolution dans la province et la saison qui s'amorce sera charnière en raison des différentes modifications apportées au système de classement. Patrick Salomon est le propriétaire et directeur du centre de Ninja Warrior et de Parkour Acton 3, qui a ouvert ses portes en septembre 2023 dans le quartier Hochelaga à Montréal. Il a invité la presse à les rencontrer dans le but de discuter de l'évolution du Ninja Warrior au Québec. Le gymnase, situé dans le centre 5600, est divisé en deux. D'un côté, sur deux étages, il y a les installations de Ninja Warrior et de l'autre, les installations de Parkour, visuellement plus épurées. Pourquoi ouvrir un tel centre? Parce que c'est cool, répète M. Salomon. Il n'a pas tort. Il suffit de regarder autour de nous pour le constater. Deux étages, quatre couloirs et des tonnes d'obstacles de toutes sortes qui donnent envie de s'accrocher et de se balancer tel un singe dans la jungle. Dans les haut-parleurs résonne une musique entraînante. Nous sommes dans une énorme salle de jeu où enfants et adultes prennent leurs pieds. Ce qui m'a poussé à ouvrir un centre de Ninja Warrior, c'est que tu retrouves ton âme d'enfant, résume justement le propriétaire. Samuel Couture, un des deux entraîneurs du centre Acton 3, pratique le Ninja Warrior depuis environ 6 ans. Il avait 11 ans à ses débuts. Au fil des années, il s'est développé et récemment, il a pris part à des compétitions aux États-Unis. Quand le centre de Montréal a vu le jour en 2023, il est venu porter son CV avant même l'ouverture officielle. Éventuellement, ce serait cool d'ouvrir un gym à moi ou avec mes amis, lâche-t-il. C'est le rêve absolu. L'adolescent de 17 ans rappelle qu'une course à obstacles de type Ninja Warrior sera intégrée à l'épreuve de pentathlon moderne aux Jeux olympiques de 2028. Je pense que ça va devenir de plus en plus populaire, continue-t-il. Les cours vont devenir plus populaires. Il y a des gyms au Québec où les cours sont remplis. Il y a plusieurs cours par jour, 7 jours sur 7. C'est justement un peu en raison de cette popularité que le sport est en train de changer, ou plutôt de se développer. 2 divisions. Parmi les changements apportés, le plus intéressant est celui des divisions, qui s'explique par la montée en popularité du sport. Les athlètes sont donc désormais séparés en groupes. La division 1, qui comprend différentes catégories d'âge, dont une catégorie pro, est destiné aux athlètes dont le but est de performer, de gagner, d'être sur le podium, d'aller faire des compétitions aux États-Unis, explique M. Salomon. Ils prendront part à des compétitions qualificatives tout au long de l'année en vue de participer à la grande finale en mai 2026. La division 2, elle, s'adresse à ceux qui ne veulent pas avoir de pression, qui veulent faire des compétitions, mais en s'amusant, qui ne veulent pas se prendre la tête avec les règles exactes. Il n'y a pas de suivi tout au long de la saison. Tu fais une compétition et si tu veux arrêter là, tu arrêtes là. Ce système s'inscrit dans une volonté de requalifier les gens dans un niveau qui leur correspond, mais aussi de pouvoir s'adapter à la croissance du sport, dit M. Salomon. Le directeur s'attend d'ailleurs à voir beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui vont venir faire une compétition de division 2 pour voir ce que ça donne parce qu'il n'y a pas de stress, pas d'engagement, pas de suivi. Une saine compétition. La presse s'est présentée au HAC-N3 un mercredi soir. À notre arrivée, un groupe de jeunes était en plein cours avec Samuel Couture. Du lot, Ève Reinhardt et Anaïs Lavoie, respectivement âgées de 9 et 10 ans. « J'aime me donner des défis aux murs, aux anneaux et plein d'autres défis », nous dit Ève. « Moi, j'aime faire un peu ce que je veux avec les obstacles », renchérit Anaïs. Les deux jeunes filles se sont connues ici même au gym. Elles s'encouragent entre elles, explique la mère d'Ève, Christine Lavallée. C'est une saine compétition. Ève a commencé le Ninja Warrior après avoir essayé la gymnastique qu'elle trouvait rigide, selon sa mère. Le ninja, ça lui offre un terrain de jeu beaucoup plus vaste avec plus de liberté. Il y a de l'équilibre, des obstacles, de la suspension, de la musculation. Elle y trouve plus son compte. Elle peut essayer un obstacle, être incapable de le réussir, mais quand elle le réussit, c'est une grande fierté. De son côté, Mathieu Lavoie, père de Naïs, qualifie sa fille de compétitive de nature. Elle a besoin de bouger, elle est très énergique, très intense. Ça correspond bien au sport, qui est un sport d'intensité, de force. Elle se retrouve beaucoup là-dedans. C'est un bel exercice pour ce qui est de la persévérance, de la résilience. Alors que nous terminons nos entrevues avec les deux parents, un autre cours de performance commence. On y retrouve cette fois 6 adolescents. Il suffit de les regarder aller pour comprendre qu'il n'a rien de facile dans ce sport alliant agilité, rapidité, force et vitesse. À un moment donné, tu es comme un animal qui chasse, image Patrick Salomon. Il faut que tu sois hyper efficace, précis. La moindre erreur et tu es foutu. Tu as perdu ton point. Et ça veut dire que tu vas être 8e. C'est la gestion du stress, de l'erreur. C'est dur, mais c'est le fun. Une fois que tu as passé les premières semaines de difficultés, les mains qui font mal, ça devient hyper intéressant. Le Montréalais n'a pas de doute. Le sport connaîtra une ascension au cours des prochaines années. Je ne saurais pas te dire dans combien de temps, mais j'ai bon espoir qu'une division 3 existe. C'était « Des ninjas partout » et même bientôt aux Jeux olympiques, un texte de Catherine Harvey-Pinard paru le 16 octobre 2025 dans La Presse.
Un nouveau service en français pour les aînés et leurs proches aidants. Un texte d'Éric Bergeron, publié le 17 novembre 2025 dans La Voix acadienne. Santé IPE lance le tout premier programme de jour pour adultes en français de la province. Conçu pour les personnes âgées francophones et bilingues, ainsi que pour leurs proches aidants, ce service offre un milieu d'accueil et de soutien taillé aux besoins de tous. Le programme est offert au centre communautaire d'Abraham Village, ancien Club 50, est situé au 8938 route 11 à Abraham Village. Les activités s'y déroulent du lundi au jeudi de 8h à 16h. Pour Lisa Gotel, responsable des projets francophones à Santé IPE, l'ouverture de ce service est une étape importante. C'est un service qui est enfin offert en français pour les résidents du comté de Prince, de Stanley Bridge à Tignish, souligne-t-elle. Les personnes inscrites au programme de soins à domicile peuvent s'adresser à leur coordonnateur. Les autres peuvent faire une demande en ligne ou par téléphone pour enclencher le processus d'inscription. Notre objectif, dit-elle, est d'aider les gens à rester chez eux le plus longtemps possible. Ça aidera à alléger la charge des hôpitaux et soutenir les proches aidants. Une évaluation des besoins suit chaque demande afin d'adapter les services au profit de chacun. Par exemple, si une personne doit s'absenter pour faire l'épicerie et ne peut pas laisser son conjoint seul à la maison, elle peut le confier au centre. Grâce aux bénévoles de l'Association des francophones de l'Âge d'or de l'Île-du-Prince-Édouard, un transport peut aussi être organisé si nécessaire, ajoute Mme Gotel. Les personnes vivant seules ou à risque d'isolement sont aussi invitées à se joindre aux activités. Le programme offre un milieu accueillant et stimulant où les échanges sont toujours enrichissants. On y propose des activités comme de l'artisanat, des exercices légers et de la stimulation cognitive. Chaque visite inclut une collation et un repas chaud offerts sans frais aux participants. Nos préposés sont formés pour offrir un appui attentif et respectueux, précise Mme Gotel. Ce programme améliore la qualité de vie des participants et offre aux proches aidants le répit dont ils ont besoin. Il répond surtout à un besoin exprimé depuis longtemps, avoir accès à des services de santé dans sa langue. Le programme s'adresse aux personnes francophones ou bilingues âgées de 65 ans et plus. Les demandes se font en contactant soit le bureau du programme de soins à domicile du comté de Prince au 902-888-8440 ou en remplissant un formulaire d'inscription sur le site de Santé IPE. Pour Lisa Gotel, ce projet répond à une demande. Offrir des soins qui respectent les besoins des habitants francophones et bilingues de l'île. C'est une façon concrète d'aider nos aînés à vivre mieux, près de chez eux et en français. C'était un nouveau service en français pour les aînés et leurs proches aidants. Un texte d'Éric Bergeron, publié le 17 novembre 2025 dans La Voix acadienne.
Dans la série Enquête de solutions du journal La Presse, déconnecté à la suédoise. Un texte signé Tristan Péloquin et François Roy, publié dans La Presse du 31 janvier 2026. En sous-titre, les Suédois pratiquent une forme de résistance poétique aux écrans à travers des concepts et rituels très implantés dans la société. Libre accès à la nature, un droit constitutionnel. Les Suédois ont un droit constitutionnel appelé Allemansrätten. Allemansrätten, qui leur assure le droit de libre accès au territoire, leur permettant même d'installer une tente sur un terrain privé d'y allumer un feu, de cueillir des champignons ou des baies, pourvu qu'ils respectent l'environnement et la quiétude de l'endroit. Ce droit inaliénable est central au Freiluftsleben, c'est-à-dire la vie en plein air, une philosophie qui les pousse à profiter des plaisirs de la nature dès qu'ils en ont l'occasion. Nombreux sont ceux qui profitent des bains d'eau glacée en hiver dans les fleuves et les lacs entourant Stockholm. Citation. Ça me connecte avec le moment présent. Fin de citation, dit Sabrina Skertlet, une baigneuse qui nageait dans le fleuve Söderström lorsque nous l'avons rencontrée. Citation. Je travaille sur un ordinateur tout le temps. Je pense que c'est important de déconnecter comme ça, parce que ça nous éloigne du stress engendré par tous les messages qu'on reçoit à longueur de journée. Fin de citation. En région, c'est à travers le Sommerstuga, Sommerstuga, le chalet primitif, que le Freiluftsleben se vit. Dans le Deutschland, une province de l'ouest du pays, des cabines de verre installées en pleine nature permettant une vue à 360 degrés ont gagné en popularité depuis qu'un groupe de chercheurs de l'Université Karolinska ont mesuré les bienfaits d'une retraite de 72 heures dans de telles installations. Baisse de 70 % du niveau de stress, réduction importante de la pression artérielle, diminution de l'anxiété et amélioration de la créativité ont été constatés parmi 5 participants qui ont agi comme cobayes. Citation. Dès la naissance, les Suédois se font inculquer l'idée qu'on travaille en ville, mais qu'il faut aussi un endroit où aller pour relaxer dans le silence et le calme. Fin de citation, explique Heidi Omlund, propriétaire d'une de ses cabines de verre avec son conjoint Mats. Le fika, la pause identitaire. Tradition très forte en Suède, le fika est une pause quotidienne quasi sanctuarisée, établie dans de nombreux lieux de travail. De grandes entreprises comme IKEA et Spotify permettent à leurs employés de le pratiquer. Citation. Le fika est d'abord et avant tout une activité sociale pendant laquelle les gens se rencontrent sans ordre du jour pour parler de la pluie et du beau temps. C'est mal vu, même impoli, d'utiliser son téléphone pendant le fika, explique Stina Armstrott, auteur d'un livre sur cet art suédois de décrocher. Citation. L'idée, c'est de tout laisser de côté pour socialiser, explique Stina Almroth, qui a écrit un livre sur l'emblématique rituel suédois. Mention sous la photo de l'auteur. La pause vers 10 heures ou 15 heures peut durer jusqu'à 45 minutes et est accompagnée de brioches à la cardamome ou au safran. Patron et employé y participent côte à côte. Citation. L'idée, c'est de tout laisser de côté pour socialiser, résume Mme Almroth. Le concept est apparu dans les années 1800 afin de réduire les accidents de travail dans les manufactures. Le fika, guillemets, est une immense part de la culture. Fin des guillemets, affirme Karine Holberg, chercheuse de l'Université Ouest, sud-ouest de la Suède, qui est à la tête d'une grande enquête nationale sur le stress numérique appelée DigiStress. Citation. Mais c'est un concept difficile à intégrer dans le travail hybride qui s'impose en Suède. Fin de citation. Tout comme au Canada, note-t-elle. Citation. Les personnes qui travaillent dans la maison en mode numérique n'ont pas ces pauses naturelles qui existent dans le monde réel. Ce qu'on voit apparaître, c'est des travailleurs qui programment de fausses réunions virtuelles afin de prendre une pause pour ne pas aligner les rencontres Teams et Zoom les unes après les autres, indique la chercheuse. Fin de citation. pas de cellulaire chez Punk Royal. À Stockholm, le restaurant Punk Royal s'est rendu célèbre parce qu'il exige des clients qu'ils abandonnent leur téléphone dans un petit boîtier de métal fermé à clé à leur arrivée. Le but, citation, vous permettre d'être pleinement présent dans l'expérience. Fin de citation, indique son site web. Dès les premiers instants, le chef vous invite en cuisine où il vous dépose une généreuse cuillerée de caviar directement sur la main avec un shooter de vodka provenant d'un jerrycan d'essence. L'expérience est trash, certes, mais combien succulente. Les bouchées de foie gras, de poisson fin et les huîtres se succèdent à un rythme fou en salle à manger, dans une cacophonie musicale bien musclée. Inutile de demander au serveur quelle épice étonnante accompagne le plat de fromage crémeux qu'on vous demande de manger avec vos doigts. Citation « I don't have a fucking clue », lancera-t-il avant de vous verser, tout sourire, une très généreuse coupe de rouge. L'absence de téléphone joue beaucoup sur l'expérience qui titille les cinq sens à l'extrême. Le nom de l'établissement n'a pas été choisi au hasard. Son credo, guillemets, ce qui se passe chez Punk Royal reste chez Punk Royal. Fin des guillemets. Il faut réserver longtemps à l'avance. Le téléphone loin du lit. Une des premières choses que les experts suggèrent pour améliorer ses habitudes numériques est de tenir le téléphone loin de la chambre à coucher. Federico Casado, un horloger de Stockholm, n'avait pas exactement ça en tête lorsqu'il a dessiné sa propre gamme de réveil matin haut de gamme qu'il assemble à la main chez lui. Citation « Dès le lancement, j'ai reçu des courriels de clients me disant qu'ils étaient heureux d'avoir enfin un bel objet qui leur permet de sortir le téléphone de la chambre, » dit-il. J'ai même un client qui m'en a commandé un deuxième après que son ado lui a volé le sien pour l'aider à décrocher de son téléphone. Fin de citation. Fin de ce texte titré « Déconnecté à la suédoise » signé Tristan Péloquet et François Roy dans la série « Enquête de solutions » du journal La Presse, publiée dans cette édition du journal du 31 janvier 2026.